Alléluia. Merci Seigneur pour sa fidélité et de nous faire connaître vraiment sa volonté. Dans ce dernier chant, on a un résumé de sa volonté. Aimer Dieu. Aimer Dieu par-dessus tout. Il faut vraiment examiner nos cœurs, à voir est-ce que j'aime Dieu par-dessus tout. Et Dieu est fidèle pour répondre à nos demandes et il va nous le confirmer. Amen. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a à faire devant Dieu. Et ce matin, ce que je voulais partager, c'est j'ai été béni par le premier chant que Marie a apporté. Et ça parlait de désespoir. Et je cherchais un peu un titre pour mon message ce matin et je me disais ça pourrait être « Espoir ou désespoir ». Mais j'ai trouvé un titre qui nous parle d'espoir dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens. Tiens, as-tu allumé les lumières, là, s'il te plaît? 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13, qui nous dit ceci. « Maintenant donc, ces trois choses demeurent. » Ça a été écrit là, pratiquement 2000 ans, mais je crois que ça demeure encore aujourd'hui, parce que la parole de Dieu ne change pas. Elle est tout le temps la même. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Certaines versions, c'est la charité, mais c'est ça que ça veut dire. C'est l'amour. Donc, ce matin, je voudrais spécialement parler de l'espoir, de l'espérance. Et je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont rentrés ici, peut-être remplis d'espoir, puis il y en a quelques autres qui sont rentrés ici avec du désespoir. Et on est d'une façon ou d'une autre. Peut-être un grand désespoir, peut-être un petit désespoir, peut-être quelque chose qui nous fait désespérer. Et on a peut-être un peu d'espoir, on a peut-être beaucoup d'espoir, mais on est d'un côté ou de l'autre. Dominé par le désespoir ou dominé par l'espoir. Dieu envahit nos cœurs par l'espoir. Et j'avais envie de faire un petit peu un bilan de qu'est-ce qui pouvait être les causes de désespoir. Et il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu, là, surtout dans l'Ancien Testament, qui nous parlent de l'idolâtrie. On ne se rend pas compte, mais si on développe dans notre cœur de l'idolâtrie, on va tomber dans le désespoir. La désobéissance à Dieu. Une faiblesse spirituelle. Et un peu partout, on voit, et je lisais dans Lévitique, comment le peuple de Dieu il a vraiment offensé Dieu. Dieu les avertissait, Dieu leur parlait et leur disait quelque chose de vraiment particulier. Il était prêt à les bénir, à prendre soin d'eux. Mais il disait un petit mot qui est à peu près le plus grand mot de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Si vous obéissez à ma voix, mes commandements, mes préceptes, je vais vous bénir, je vais faire ci, je vais même aller bénir jusque vos animaux et même vos semences. Il continue quand même en disant, mais si vous désobéissez, là vous allez tomber sur la malédiction et ça va atteindre vos enfants, vos animaux et même vos semences. Et en lisant ça, je me disais, hey, quelle cause de désespoir. Et Dieu leur dit, vous allez être tellement désespéré que votre cœur va tomber en défaillance. Vous allez vraiment être désespéré parce que là, il n'y aurait pas vraiment d'espoir à cause de leur désobéissance. À cause aussi de l'idolâtrie. Donc, c'est pas vraiment là-dessus que je veux parler, mais sur le remède au désespoir. C'est bon quand on a un certain problème de santé physique d'avoir un remède en quelque part. On dit, oh, j'ai mal là-dedans. C'est le fun, il y a un dentiste. Ainsi de suite. J'ai des problèmes avec mes yeux. Ah, c'est le fun, il y a quelqu'un qui peut traiter mes yeux. Et ce matin, avec la parole de Dieu, on va voir quelques remèdes au désespoir. Et il y a des choses qui nous font vraiment désespérer dans la vie. des situations qui nous font désespérer. Mais Dieu, ce matin, veut vraiment, je crois, donner de l'espoir à chacun. Peut-être que vous êtes un petit peu dans le désespoir, mais peut-être que vous avez un grand désespoir. Mais peu importe la grandeur du désespoir, Dieu veut vous donner de l'espérance, de l'espoir. Et ces choses, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais parfois, l'ennemi, il vient enlever notre foi. Il vient enlever notre espérance et même vient enlever notre amour. Il y a des temps où on a comme un peu moins le goût de faire des choses pour Dieu, par amour pour lui. On va le faire peut-être un petit peu par obligation. Mais Dieu veut vraiment qu'on fasse toutes choses par amour. Mais ce matin, on va y aller plus pour l'espoir, le désespoir. Et une des premières choses à faire, c'est de faire confiance à Dieu. Et on va aller voir un passage dans Deutéronome, chapitre 20. Deutéronome, chapitre 20. Deutéronome 20. Deutéronome 20. Et on va lire à partir du verset 1. Ça dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple et il leur dira, « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Amen. Ici, le sacrificateur, ce qu'il avait comme mandat, c'est d'encourager le peuple à dire, « Faites confiance à Dieu, lui qui vous a fait sortir d'Égypte, il va combattre. Il est avec vous, puis il va combattre vos ennemis. » Et nous, on est un peu comme les Israélites. On est sortis d'Égypte par notre nouvelle naissance. On est sortis du monde. Et on a des ennemis. Mais je vous encouragerais à ne pas voir personne comme un ennemi. Parce que la parole de Dieu dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits. Si vous voulez savoir contre qui vous avez à lutter, c'est pas contre personne. Votre véritable ennemi, c'est pas un homme, une femme, n'importe qui, là. Véritable ennemi, c'est Satan avec toute son armée. Mais encore là, on pourrait dire la même chose. Ayez pas peur. Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, il est toujours le même, puis il va vous donner la victoire, il va combattre pour vous. Amen. Ça, c'est important. Je fais confiance à Dieu parce que je veux pas tomber dans le désespoir. Et souvent, parce qu'on a des difficultés avec de mauvais esprits, notre regard s'abaisse vers des personnes et on croit que c'est cette personne-là qui est la source de notre difficulté. Il n'y a aucune personne qui est vraiment la source. C'est vraiment des mauvais esprits qu'on a à combattre. Et essayez de bien vous rappeler de ça. De ne pas voir comme personne comme votre ennemi sur la terre. Vraiment ennemi, c'est des mauvais esprits. Mais on fait confiance à Dieu et là, on a de l'espoir. Parce que je suis certain que vous avez déjà passé un temps de désespoir. Puis peut-être que vous en passez un présentement. Puis peut-être que vous allez être confronté à en passer un dans l'avenir. Mais dites, moi, je continue à faire confiance à Dieu. Moi, je peux vous dire qu'il y a bien des choses qui m'ont amené à désespérer par rapport à certaines situations. Mais je remercie Dieu parce qu'il me dit, pas de problème, je combats avec toi, je suis avec toi. C'est ça, tout ça l'important. Je suis avec toi. Je t'ai fait sortir du monde, je t'ai sorti d'Égypte, je t'ai libéré de l'esclavage, je te donne la liberté, puis je vais combattre, je vais être avec toi, puis je vais... Trouble-toi pas. C'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Mais, il n'y a pas de problème, Dieu nous connaît et Dieu veut nous aider. Amen. Première chose. Deuxième chose, aimer Dieu. Psaume 31. Psaume 31. Il y en a qui font la lecture des psaumes, un psaume par jour. Et on a fait 5 par jour et on lit les psaumes dans un mois. C'est bon comme ça. Merci Seigneur. Psaume 31. Verset 22. Psaume 31, verset 22. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi. Comme si j'eusse été dans une ville forte, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous qui espérez en l'Éternel. Amen. On a chanté ce chant-là ce matin. Aimez l'Éternel. Oui, aimez l'Éternel parce que Dieu a manifesté sa grâce envers nous. Et on sait que Dieu nous aime et qui entend nos prières, nos supplications et qui nous garde. L'Éternel garde ses fidèles. Amen. Et il veut même nous garder du désespoir. Mais premièrement, il nous garde, nous, personnellement. Et ça, c'est très précieux. Et c'est important qu'on puisse vraiment comprendre que Dieu nous aime. Pas à cause qu'on est aimable. Mais souvent, on n'est pas aimable. Très souvent, on se trouve peut-être même pas aimable. On a de la difficulté à dire, quelqu'un peut m'aimer. Mais Dieu nous aime quand même. Et Dieu prend soin de nous. Et Dieu nous garde. Amen. Et ça va nous aider à ne pas désespérer, à ne pas tomber dans le désespoir, dire « ça changera, je ne changerai jamais, ça changera jamais ». Mais de savoir que quelqu'un nous aime, ça change quelque chose. Hein? Ça fait du bien de savoir que quelqu'un nous aime, même si on n'est pas trop aimable, même si on n'est pas le plus gentil ou quoi que ce soit. Des fois, on voit plus nos défauts que nos qualités, mais même si on aurait beaucoup de défauts, Dieu nous aime quand même. Ça, c'est une bonne nouvelle. Même si on aurait 30 défauts puis une qualité, Dieu nous aime quand même. Et même l'inverse, si on aurait 30 qualités et un défaut, il nous aime quand même. Mais on a plus l'impression que quand on est bien gentil, bien bon, Dieu nous aime. Mais c'est juste une impression. Ça ne change pas. Dieu nous aime. Amen. La troisième, je pourrais dire, c'est peut-être ingrédient ou remède. Je pensais quasiment comme une recette. Vous savez. Ça prend de la foi, une personne qui fait une recette, qui met... un petit peu de farine, un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis dire ça va faire quelque chose de bon. Pensez-y, la prochaine fois, vous allez faire une recette, dire ouais, un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de là, puis mais ça va faire quelque chose de bon. Là, on mélange tout ça ensemble, on fait cuire ça, puis c'est bon. Mais ça, faut y croire. Faut y croire que ça va être bon. Mais c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on a de besoin? C'est faire confiance à Dieu, aimer Dieu et espérer en Dieu. Dans Romains. Et ça, c'est un passage très important. Si vous avez un passage à retenir, retenez ce passage-là dans Romains, 4e chapitre. Et on sait l'histoire, je sais que vous savez l'histoire, mais juste prendre le temps de lire ces passages-là et dire, wow, ça, c'est important, c'est précieux. Ces choses-là ont été écrites, hein, ça nous dit pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et ici, dans Romains, ça nous dit, ça nous parle d'une histoire qui est arrivée de très, très longtemps. C'est l'histoire d'Abraham. Ici, dans Romains 4, le verset 16, qui nous dit, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'une grande nation. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et le chapitre 5, le verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. » Ça, c'est pas tout à fait facile. « Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Amen. Et on voit ici, Abraham, il a cru, malgré tout, si on pourrait dire ça autrement, il y avait des circonstances qui avaient de l'air tout à fait contraires, tout à fait pour l'amener dans le désespoir de dire « c'est fait, je suis fait, je suis trop vieux, Sarah aussi est trop vieille, c'en est fait de cette histoire-là. » Mais non, il a cru contre toute apparence. Et ça, c'est là qu'on a besoin de vraiment faire confiance à Dieu, quand les apparences sont contraires. Ça ne marchera pas. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Dieu veut qu'on reconnaisse qu'on a tout par grâce, pas par nos mérites, premièrement. Et après ça, que c'est lui qui nous fait justice et qui produit quelques petites circonstances qu'on trouve plates. Si on regarde les premiers versets du chapitre 5, là, aïe, 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 c'est ça, là, les afflictions. Aïe, aïe, aïe. Ça produit quelque chose. On peut tomber dans le désespoir ou continuer à espérer. On peut tomber dans la défaite, mais là, il y a comme une progression. Hein? Qu'est-ce que ça produit? Ça produit quelque chose. Bien-aimés, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant très bien que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, elle, la victoire dans l'épreuve. Cette victoire nous donne de l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est une question de la parole de Dieu, promesse de Dieu et du Saint-Esprit qui va venir nous convaincre. Parce que ça a bien beau être écrit, si on n'est pas convaincu par le Saint-Esprit, ça demeure une lettre morte. C'est l'Esprit qui vivifie la parole de Dieu. Et là, on prend courage, on dit « Wow, j'espère en Dieu, je sais qu'il va faire quelque chose comme il a fait pour Abraham, que ça avait là une situation vraiment désespérée. » Et l'ennemi, c'est lui, c'est de semer du désespoir, qu'on soit vraiment découragé, terrifié. Et moi, je pensais à une situation que j'ai vécue là, peut-être 40 ans maintenant, pas tout à fait 40 ans, pas loin de 35 ans. Et c'était par rapport au sport. Et on s'en allait jouer à Ferme-Neuve. Là, si je me recule de 35 ans, là, j'étais en route vers Ferme-Neuve pour jouer une partie de baseball. Et à Ferme-Neuve, il y avait un lanceur qui avait, je ne l'avais jamais affronté, il avait une réputation d'être vraiment fameux. Mais ce gars-là, c'était un drôle de gars. C'était un gars qui avait parti de la ville pour s'en aller à Ferme-Neuve pour vivre dans le bois. Et c'était la mode, les peace and love, le typique hippie des années 70. Les cheveux longs, la barbe. Il arrivait sur le terrain de baseball, lui, en jeans, nu-pied. Puis s'il avait eu le droit, il aurait joué nu-pied. Mais il fallait qu'il s'habille. Et là, j'étais le premier joueur à l'affronter. Puis je me suis dit, après ça, j'ai dit, c'est quelque chose de nos pensées. Et je me suis dit, lui, il est terrible. Mais c'est un gars qui se foutait de tout. Il ne jouait pas pour gagner, lui. Il jouait juste pour avoir du fun. Et là, il commence. Et moi, j'étais comme nerveux au bout. J'ai dit, ça n'a pas d'allure comment je suis nerveux que ce gars-là. Mais c'était pas un gars qui avait une balle rapide, comme j'ai déjà vu, là, quasiment. Il y avait un lanceur qui faisait tellement une balle rapide que sa balle a sifflé. Et les gars dans l'autre adversaire, quand ils entendaient siffler la balle, ils avaient déjà peur d'aller au bâton. C'est ça, le diable. Il veut nous faire peur d'avance. Et là, moi, quand j'ai vu ce gars-là, il est tout cool, puis lui, il avait du fun, il n'y avait pas de quoi, puis sur la lèvre de gars, charisme, puis il est en roulant, je fais des pirouettes, n'importe quoi. C'est un gars habile, il est très précis. Puis, le premier coup, j'étais allé contre lui, j'ai dit, hey, ça n'a pas de bon sens, je shakais comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais dans ma tête, il y avait la réputation de ce gars-là terrible. En fin de compte, j'ai pu saisir un peu mon adversaire, il n'est pas si terrible que ça, c'est moi qui vais te faire peur. Et c'est ça qui est arrivé. Mais c'est pour dire, l'ennemi veut vraiment nous terrasser d'avance, nous dire, ah non, ça n'a pas de bon sens, c'est impossible. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Puis quand on fait confiance à Dieu, Dieu est avec nous, Dieu va combattre nos adversaires, il va nous donner de l'espoir. Et ça le dit dans Jérémie, j'ai un plan, j'ai un projet pour ta vie, et c'est important. Dieu, moi j'aime Dieu, pour savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un plan. J'aime ça, moi, un plan. J'ai vu ça cette semaine. On avait des choses à faire, Lise et moi, et on s'est établi un plan. Et c'est le fun! Quand tu n'as pas de plan, tu ne sais pas où aller. Tu es tout mêlé, tu es tout confus. Mais Dieu, il a un plan. Il n'est pas mêlé, il n'est pas confus. Puis il veut qu'on soit démêlé, puis pas confus. On fait confiance à Dieu. Il nous donne de l'espoir. Et c'est exactement ce que Dieu a. Il a un plan pour nous donner de l'espérance et un avenir. C'est ça que Dieu veut. Et peu importe l'adversaire, Dieu est avec nous. Il nous donne de triompher. Les légères afflictions du temps présent, on va en parler un petit peu plus loin. On va revenir plus loin. OK. Donc, faire confiance à Dieu, aimer Dieu, espérer en Dieu. J'espère en Dieu, comme Abraham. Il a tellement espéré en Dieu, Abraham, que rendu à 165 ans, il n'avait pas juste eu son fils. Ça dit qu'il n'a eu d'autres fils. Ça, c'est quand j'ai lu ça, moi, ça m'a étonné. Ouais, il est mort assez vieux, Abraham. Je ne me rappelle plus si c'est 165, 175 ans. Mais ça nous dit, j'aurais pu, pour votre bénéfice personnel, prendre les noms de ses autres enfants qui sont nés après qu'il y a eu celui-là. C'est spécial. Il dit, là, je ne t'ai pas usé pour un, je suis capable pour d'autres. Parle-moi de ça. Ça dépend de ce qu'on pense. Donc, espérez en Dieu. Et une autre chose qui se trouve dans l'évangile de Luc. Luc 18. Luc 18. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on, la plupart, on connaît, mais que c'est donc important. Luc 18, c'est une parabole de Jésus. Une parabole parmi ces nombreuses paraboles qui voulait vraiment enseigner quelque chose à ses disciples par des paraboles. Il ne faut pas oublier qu'une parabole, c'est un message en arrière de tout ça, parce que si on prend cette, spécialement celle-là, on va dire, Jésus, tu n'as pas une bonne vision de qui est Dieu. Mais Jésus avait une très bonne vision de qui était Dieu, c'était son Père. Mais il voulait apprendre des choses à ses disciples, comme il veut nous apprendre des choses. Et dans Luc 18, ça dit, « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. » Il avait vu aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas me casser la tête. » Arrête de me fatiguer, autrement dit, OK? Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne vous fera-t-il pas justice, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ici, Jésus est en train de donner une leçon à ses disciples. Les paraboles, c'était des leçons pratiques. Il dit, même s'il y aurait quelqu'un qui n'est pas correct, là, mais parce que la personne insiste, elle vient tout le temps devant lui, il va lui accorder ce qu'elle demande. Il dit, imaginez-vous donc Dieu. Lui, il est juste. Lui, il vous aime. Puis lui, il a égard à vous tous. Il va vous faire justice, Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, ce qui est important, c'est de continuer à prier. Ne pas tomber dans le désespoir de dire, je suis fait, ça ne changera pas. Ça fait 20 ans que c'est comme ça, ça fait 25 ans que je suis comme ça, puis ça ne changera pas. Dieu dit, Jésus dit à ses disciples, crie à Dieu, prie, insiste, persévère, puis il va te faire justice. Il va se passer quelque chose. il va te donner de l'espoir. Tu ne resteras pas dans le désespoir, parce que c'est vraiment le jeu du diable qu'on soit dans le désespoir, mais c'est le plan de Dieu qu'on soit plein d'espoir. Cinquième chose, cinquième remède ou ingrédient qui se trouve dans 2 Corinthiens. Deuxième Corinthiens, chapitre 4. Deux Corinthiens, chapitre 4. Et on va commencer la lecture au verset 7. Paul qui est en train de dire, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Et on va aller au verset 16. C'est pourquoi, après avoir dit cela, Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire pour que nous regardions non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Amen. Et ça, c'est une réalité. Notre homme extérieur se détruit. Et plus on vieillit, plus on comprend facilement ce verset-là. Quand on est jeune, on a de la misère à comprendre ça. Il y a des choses comme ça que l'âge nous amène, nous apporte. On comprend. Mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et là, il y a question des légères afflictions. Moi, j'aime ça qu'il ait employé le mot « légère ». Parce que qu'est-ce qu'il nous décrit avant, c'est pas drôle. Et si on sait ce que l'apôtre Paul a vécu, c'était vraiment pas drôle. Moi, j'aurais pas vraiment aimé, et j'aimerais pas encore aujourd'hui, être devant une foule de gens qui ont chacun quelques pierres dans les mains, qui sont prêts à me les lancer. J'ai comme, en dedans de moi, là, j'ai mon imagination, des fois, il faut que je l'arrête parce que ça me fait déjà mal. C'est quelque chose. Il a vécu ça. Il dit ça, c'est rien. Les légères afflictions du moment présent nous donnent un poids éternel de gloire. Et ça, on a besoin de ça, de voir un peu la gloire que Dieu nous réserve. On a été créé à l'image de Dieu et on a un Dieu glorieux. Et sur la terre, des fois, on peut avoir des moments de gloire, mais Dieu veut vraiment nous montrer que dans le ciel, il va avoir toute une gloire. Quelque chose d'extraordinaire. Amen. Donc, pas se décourager. Galates 6, 9. On s'en va vers la fin de notre Bible tranquillement. Galates 6, 9, qui nous dit aussi. Galates 6, 9, qui nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si, encore là le petit mot qui est grand, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères à la fois. » Encore là, de ne pas se décourager, se lasser, se tanner, dire « ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas le coup que je persévère. » Oui, ça vaut la peine de persévérer. Deuxième Thessaloniciens, un petit peu plus loin. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 3, deuxième Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et je regardais ce verset-là. Et c'est vraiment peut-être un des rares versets qu'on n'a pas vraiment besoin de lire qu'est-ce qui est en avant, ni lire qu'est-ce qui est après. C'est pas grave, on peut le lire. Mais c'est juste ce verset-là, il est là, et qui dit, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous découragez pas de faire le bien. En pensant que ça ne vaut plus la peine. J'ai tout essayé. Des fois, on a des personnes pour qui on espère beaucoup, ils ont fait beaucoup de choses, mais oups, on vient comme tanner un petit peu, on se décourage. On arrête peut-être de faire ce qui est bien, de prendre soin de cette personne-là d'une façon particulière. Mais ici, l'Esprit de Dieu dit, frère, laisse-toi pas décourager. Lâche-toi pas de faire le bien. Fais-en du bien, fais-en. Tu vas récolter autant convenable. Mais le diable, il veut juste nous dire, oh non, ça ne sert plus à rien, tu as tout fait que tu pouvais. Tu as aidé cette personne-là, t'as prié, t'as crié à Dieu, puis il n'y a rien qui se passe. Mais ici, l'Esprit de Dieu nous dit, lâche-toi pas de faire le bien. Juste ça, c'est déjà beaucoup. Parce que parfois, on peut avoir l'idée de dire, ça ne vaut plus la peine. J'arrête ça. Des fois, on peut même avoir l'idée qu'il ne mérite pas ça. On a tout à fait raison. Nous autres non plus, on ne méritait pas ça. Mais c'est ça la grâce. C'est ça l'Esprit de Dieu. On ne le fait pas parce qu'il mérite la personne. On le fait par amour pour Dieu. Parce qu'on veut, on a de l'espoir. Dieu nous a donné de l'espoir. Et le dernier point, et je crois que c'est vraiment important, ça, c'est Hébreux. Vraiment très important. Hébreux, chapitre 12. Marie l'avait trouvé, hein, Marie? Ouais. Hébreux 12, et le verset 1. Je crois que c'est important, lorsqu'on considère la parole de Dieu, de toujours s'aligner vers la croix, quelque part, vers Jésus. Et ce verset-là nous parle de cela. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et je vais arrêter là la lecture. Ici, le Saint-Esprit nous amène à dire, on est entouré de nuées de témoins. Pensez jamais que vous faites quelque chose, que vous êtes seul à savoir ce que vous faites. Ça, c'est important. Même si vous êtes dans le fond du sous-sol chez vous, dans le fond d'un garde-robe qui fait noir, ce que vous faites là, il y a quelqu'un qui sait, et c'est Dieu. Ça, c'est des fois, on a comme une mauvaise perception de ce qui se passe vraiment. Dieu, il connaît exactement ce qu'il y a dans nos cœurs. Et il y a aussi des témoins qui sont des anges, qui regardent ce qui se passe. Il y a aussi des témoins qui sont des hommes, qui nous voient y aller aussi. Il y a des gens dans nos familles qui nous voient y aller, qui sont des témoins. Mais ça dit, étant entouré d'une si grande nuée de témoins, anges, même les démons qui veulent notre perte, des hommes, des personnes qui nous voient, qu'est-ce qu'on a à faire d'avoir les regards sur Jésus? Je ne sais pas si vous trouvez ça cute, le mot consommateur. C'est cute quand on va l'acheter quelque chose, mais là, quand on lit ça, dans une autre version, ça dit « celui qui suscite en vous la foi ». Ça, j'aime ça. Il me donne la foi de dire « ouais » à travers tout, même quand le désespoir veut vraiment m'englober, m'environner. J'ai à regarder à Jésus, qui lui est mon modèle. Lui, il aurait eu le sujet de se désespérer. De voir tout le peuple juif, combien de fois qu'il dit, il s'est lamenté en voyant Jérusalem, combien de fois qu'il a pleuré, en disant, vous ne voulez rien savoir. Les prophètes, vous ne les avez pas écoutés, puis vous ne m'écoutez pas non plus, vous ne voulez rien savoir. Maintenant, il y a eu un débat avec les juifs, il disait, nous, notre père, c'est Abraham. C'est Dieu, notre père. On n'est pas des enfants illégitimes. Jésus dit, si Dieu serait votre père, vous seriez capable de m'écouter, mais là, vous n'êtes pas capable de m'écouter, parce que votre père, c'est le diable. Et il y aurait eu quoi de désespérer, dit le peuple qui a grandi, qui a été instruit des commandements de Dieu, ce peuple-là, il me rejette, moi. qui est le Fils de Dieu. Puis ils se disent, oh, on est des enfants de Dieu. Dieu, c'est notre Père. On n'est pas des enfants légitimes, nous autres. Puis qu'ils font même le traiter, hey, t'es mal pris qu'un démon. Là. Il y a quelque chose dans toi qui ne va pas. Mais je suis sûr qu'il a été fortifié dans son homme intérieur par le Saint-Esprit. Il a été encouragé. Il a regardé à, ça dit, il a regardé à la gloire qui lui était réservée. Ça fait qu'il avait une vision à très longue portée. Il était capable de voir plus loin. Et nous, c'est ça notre problème. On voit juste la situation. On voit juste le problème qui est là. On voit juste la difficulté. Il n'y en a pas de solution à ça. Humainement, ça se peut. Mais divinement, il y en a. Et c'est ça que Dieu veut vraiment nous apprendre à dire, moi je regarde à Jésus, c'est mon modèle. Il était abandonné. On trouve ça plate d'être abandonné. C'est vrai que c'est pas drôle. Il dit, méprisé, mal jugé. Puis lui, il a continué. Il dit, je vais le faire quand même. Je comprends qu'à un moment donné, il y a eu de l'angoisse, de la tristesse. Il dit, hey, ça vaut-tu la peine de faire ça? Ça vaut-tu vraiment la peine? Regarde ce qui est arrivé depuis que Dieu a créé l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ils m'ont écouté? Comment que Dieu a voulu parler à son peuple à nombreuses reprises? Ils ont même tué des prophètes. Et là, il y avait le Fils et ils l'ont tué. Mais nous, c'est important pour nous de dire, moi, là, j'ai un regard sur Jésus. C'est mon modèle, c'est mon chef. C'est lui qui suscite en moi la foi. Qui me dit, wow, ça vaut la peine. Je ne veux pas me laisser décourager. Je ne veux pas tomber dans le désespoir. Puis c'est un combat auquel on est tous confrontés. Il y a tout tant de situations qui viennent. Je pensais à ça cette semaine, les légères afflictions. C'est quoi les légères afflictions? Trahison, trahi par quelqu'un qu'on avait confiance. Des mauvaises paroles qu'on a entendues que quelqu'un a dit sur notre compte. Être mal jugé quand on veut faire du bien à quelqu'un pour dire qu'on, en fin de compte, on voulait leur faire du mal. Et il y a une liste de légères afflictions. Seigneur, aide-nous à garder les yeux à la bonne place. Et c'est ça. Au lieu de regarder Jésus, on baisse nos yeux. Jésus, t'es mon chef. T'es mon modèle. Je place ma confiance en toi. Je veux t'aimer. Je veux espérer. Je veux continuer à prier. Je veux pas me décourager. Mais ça, même si on se le dirait bien des fois, je veux pas me décourager, c'est pas une pensée positive, là, à force de répéter quelque chose, que ça va marcher. Non. Je veux pas me décourager parce que toi, tu me donnes du courage. Toi, tu me donnes la force. Toi, tu me renouvelles mon être intérieur par ton esprit. Et c'est vraiment important. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur. Parce que seul par mes forces, j'y arrive pas. C'est vrai que c'est décourageant. C'est vrai. Mais ayant les regards sur Jésus, puis on n'a pas encore combattu, comme ça dit au verset 4, on n'a pas combattu jusqu'au sang. Il n'y a personne qui a été livré ici en tourment, torturé, dit « Oh ouais ». Un petit peu avant dans Hébreux, ça dit « Nos modèles de foi, il y en a qui ont obtenu des choses extraordinaires, puis il y en a qui ont juste été torturés, qui sont morts comme ça ». Il y avait autant de foi que les autres. C'est spécial. Ce qui est important, c'est de dire, moi Dieu, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Mais moi, je veux continuer à regarder à Jésus, qui est mon chef. Qui est mon chef, mon Seigneur, mon Sauveur. Mais trop souvent, on accroche beaucoup plus sur le Sauveur. Et on oublie le Seigneur, on oublie le chef. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a des droits sur nos vies. C'est quelqu'un qui peut nous demander des choses. Et un chef, c'est quelqu'un à qui on doit obéir. Et ça, notre obéissance, c'est entre nous et Dieu. Et ça va se démarquer aussi parmi les gens qui nous entourent, comment on peut obéir à Dieu. Mais Dieu nous demande de vraiment lui faire confiance. Amen. Parce qu'il y a un projet pour nous et il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et autant on a besoin d'espérance, autant on a besoin de donner de l'espérance aux gens qui nous entourent. Faut pas oublier ça, là. Autant on a besoin d'être aimé, autant on a besoin d'aimer les gens autour de nous. Autant on a besoin d'espérance, autant on a besoin d'en donner. Et ça, ça va être par l'Esprit de Dieu, parce que il y a tellement de choses qui dépassent nos capacités. Mais c'est bon d'être dépassé. C'est ça, avoir un Seigneur, quelqu'un qui nous dépasse. Amen. Quelqu'un qui prend soin de nous aussi. Un bon berger qui pourvoit nos besoins.